Vous écoutez
RMC.
Bonsoir à tous, bienvenue sur RMC, un after foot de 2 heures. Vous le savez, en ce dimanche, nous sommes à quelques jours de la Coupe du Monde, RMC Radio officielle du Mondial, du 11 juin au 19 juillet. Vous suivrez évidemment tout. Ils sont là en pleine forme. Nous avons un trio ce soir. C'est Fabrice Hawkins, Kevin Diaz et Maxime Chanot. Bonsoir messieurs.
Salut à tous.
Tout va bien?
Ça va très bien, toi.
En pleine forme, écoutez, on est prêt, on se prépare pour le grand départ, évidemment, parce que vous le savez, qu'on a le bonheur avec RMC de délocaliser l'antenne à New York, donc on vous fera vivre évidemment ça sur site avec les trois pays organisateurs, il y a évidemment les États-Unis, le Mexique et le Canada. Messieurs, avant de vous donner le programme, une information importante, vous le savez, c'est Eriksen qui a eu un nouveau malaise lors d'un match aujourd'hui. Les nouvelles sont plutôt bonnes. La Fédération du Danemark a communiqué et le joueur va bien. C'était lors du match face à l'Ukraine. On rappelle évidemment qu'Eriksen avait déjà été victime d'un malaise terrible il y a quelques années et il vit depuis avec un pacemaker.
Ça sent la fin, non? Pour lui. Quand je dis la fin...
Professionnel.
Ouais.
En tout cas, le principal, c'est qu'évidemment, les nouvelles données par la fédération sont bonnes. C'est la santé avant tout. Le programme, messieurs, Didier Deschamps qui fait ses adieux à Clairefontaine. Et oui, Dédé a quitté le château cet après-midi direction Lille. On sera avec Arthur Perrault, l'avis de Kevin Diaz, un avis tranché. On parlera également de différentes nations qui vont évidemment jouer cette Coupe du Monde. On fera un point sur le Maroc, demi-finaliste en 2022, sur la Mannschaft qui reste sur 2 gros échecs. Et puis la Belgique. La Belgique avec Rudy Garcia, le français. Est-ce un outsider ou pas? Et puis nous parlerons également de ce qui se passe pour l'Iran. Vous le savez, nous avons Nicolas Pelletier, notre envoyé spécial là-bas à Tijuana. L'Iran n'a pas pu finalement avoir son camp de base aux États-Unis, donc ils se sont replié sur le Mexique. Vous saurez tout, évidemment, avec une situation qui est forcément compliquée pour les joueurs de la sélection iranienne. L'After Foot, c'est parti. On va prendre tout de suite la direction de Lille et retrouver Arthur Perrault, notre suiveur des Bleus au quotidien. Là, c'est ton sprint final qui commence, Arthur, évidemment, avec ces matchs amicaux et cette Coupe du Monde. Et on espère un travail jusqu'au 19 juillet. Tout va bien, Arthur ?
Tout va bien. La ligne droite, ne fait que commencer.
La ligne droite est aussi longue, en fait, que le tapis qu'il y avait pour les Parisiens lors de la célébration de la deuxième étoile, en fait.
C'est un peu ça. C'est un peu un tapis sans fin, oui.
Exactement.
On ne connaît pas quand il s'arrête.
Arthur, dis-nous tout. On rappelle que l'équipe de France a joué un premier match amical. C'était jeudi soir à la Beaujoire à Nantes. Demain, il y aura le dernier match en France. Ça sera face à l'Irlande du Nord à Lille. Et après, ça sera la direction les États-Unis, évidemment. Donc, Didier Deschamps a dormi pour la dernière fois hier soir à Clairefontaine, parce qu'on sait qu'il ne sera plus le sélectionneur des Bleus à l'issue de cette Coupe du Monde. Parle-nous de ses adieux et de ce qu'a ressenti le sélectionneur des Bleus, même si on sait que c'est pas un grand sentimental. En tout cas, il ne laisse pas transparaître beaucoup de choses.
Oui, et d'ailleurs ça on l'avait très bien ressenti un peu plus tôt cette semaine lors du match à Nantes face à la Côte d'Ivoire, où il avait eu le droit à la 7e minute de jeu à un hommage de la tribune Loire, où avaient pris place les irrésistibles français avec un immense tifo, avec plusieurs banderoles en hommage à lui mais aussi à son staff technique. Et voilà, il avait fait un petit geste de la main mais pas plus. C'est vrai qu'il a pas l'habitude de montrer ses sentiments, et cela s'est aussi ressenti ce matin au moment de quitter Clairefontaine pour la dernière fois, où il y avait un long tapis bleu qui était déroulé sur les marches du château, et où l'ensemble des salariés du château de Clairefontaine s'étaient donné rendez-vous pour applaudir une dernière fois le sélectionneur au moment de son départ pour Lille. Lille où il a participé à la traditionnelle séance où il a effectué la traditionnelle séance de veille de match. Il s'est aussi présenté en conférence de presse, et forcément que la question a été posée. Lui qui s'apprête à disputer demain soir au stade Pierre-Mauroy son dernier match à la tête de l'équipe de France. Et forcément, il était un peu plus ému cette fois-ci.
Depuis que je suis arrivé à Clairefontaine, il y a beaucoup de choses que j'ai fait pour la dernière fois. Donc si j'y pense à chaque fois, c'est la réalité. Ça m'attriste pas. Je vais pas sauter de joie non plus, c'est factuel. Ce qui est important pour moi, au-delà de mon cas personnel, même si l'hommage à Nantes aurait été très émouvant, même si c'est situé en pair match, et les joueurs, ils étaient en train de jouer, concentrés sur ce qui se passe sur le terrain. Mais le fait de ces deux matchs en France, avant notre départ, d'être au contact de nos supportrices, de nos supporters, de faire le plein d'énergie avec de soutien, d'enthousiasme, que des choses positives par rapport au groupe France.
Voilà, demain soir, il y aura encore des hommages. Hein. Il avait eu le droit à quelques animations à Nantes et ce sera la même chose du côté du stade Pierre-Mauroy pour Didier Deschamps.
C'est vrai que l'enthousiasme de Didier Deschamps là qu'on vient d'entendre, c'est vrai que ça va nous manquer ça, hein, parce qu'il dit qu'il a pris beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme de la part des supporters. Ça, c'est quelque chose vraiment qui va être vraiment un grand manque pour tous les suiveurs de l'équipe de France.
Ouais, on le connaît notre Didier Deschamps, hein, c'est pas le plus expressif. Il nous l'a montré encore une fois. Oui, si tu peux mettre sur ce.
Est-ce qu'il prend du plaisir dans le football, Camille?
Mais évidemment, il le dit toujours. Il nous a déjà dit que de toute façon, il n'allait pas être un retraité pendant de longues années. Il ne va pas passer son temps à siroter des picoladas.
Il ne va pas jouer au paddle sur la Côte d'Azur.
Alors, ça, oui, mais pas que. Parce qu'il le fait déjà.
Ah, oui, mais là, il est sélectionneur. Là, il est pas...
Oui, et alors, tu peux être sélectionneur et jouer au paddle.
Et puis, tu sais, un sélectionneur, en général, ne travaille pas 12 mois dans l'année. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il.
C'est déjà un excellent joueur de paddle, bien évidemment, mais on a bien compris qu'il n'allait pas prendre a priori 10 années sabbatiques. On est d'accord, Arthur, on sent que de toute façon, il est habité par le fait d'entraîner, de gagner, d'être stimulé par quelque chose.
Ouais, en fait, lui, il a horreur que, typiquement pour demain, que l'on dise que c'est son dernier match en France. Il dit, mais qu'est-ce que vous en savez? Ça se trouve, je reviendrai, je serai entraîneur d'une autre équipe. Donc, c'est pour ça que la formulation est hyper importante en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Et ça, il y tient véritablement.
Non, en fait, tout est possible en réalité, là, après l'équipe de France et après la Coupe du Monde. Moi, je reste convaincu quand même, au vu de tout ce qui est en train de se passer, parce qu'il peut pas prendre n'importe quel banc, mine de rien, à Didier Deschamps. Il veut une équipe qui puisse gagner.
Il y a la place à Nantes, même si Der Zakarian devrait revenir.
Ça ne leur aura pas échappé qu'ils ne vont pas jouer les premiers rôles.
Vous leur verriez repartir sur une équipe professionnelle, c'est-à-dire même pas une équipe nationale, vraiment un club.
Un club de très haut niveau où il peut gagner, et notamment la Ligue des Champions, oui, mais il n'y en a pas énormément aujourd'hui de bandes libres. C'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas, moi, qu'ils fassent une année sabbatique et qu'ils reprennent derrière.
Ok, parce que c'est pas le même quotidien entre entraîner une équipe nationale et un club. Hein. Donc oui, c'est vrai.
Mais
que...
rien, en tout cas, ne l'effraie. Il a dit qu'il ne se fermait pas les portes. Il a dit que sélection ou club, en tout cas, il a pas voulu dire je ne ferai pas ça ou je ferai ça. Donc, il est ouvert à toute proposition. Didier Deschamps, il était aussi attendu sur certains dossiers parce qu'on sait qu'il y a des crispations au sein des Bleus. Arthur, il y a des problèmes de primes, il y a des problèmes de place et il y a aussi des problèmes de droit à l'image qui ont été révélés hier soir. Et donc, forcément, le sélectionneur a été interrogé là-dessus.
Oui, d'abord en commençant par les droits à l'image, c'est vrai que c'est la dernière information en date où très clairement certains bleus, dont Ryan Cherki et Kylian Mbappé, ont été et sont même crispés d'apparaître dans des pubs pour Paris Sportif et notamment avec le partenaire de la Fédération Française de Football Betclic, qui a eu le droit mardi à Clairefontaine à une séance photo, comme ça se fait très souvent, séance à laquelle ont participé plusieurs joueurs dont Ryan Cherki, Kylian Mbappé, Désiré Doué, Michael Olise ou encore Ousmane Dembélé. Et sauf que voilà, certains d'entre eux ont découvert que c'était justement pour ce site de Paris Sportif. Alors on le sait historiquement, hein, par exemple Kylian Mbappé s'est positionné contre ce type de publicité, notamment des Paris Sportifs. On se souvient qu'il y avait eu aussi quelques histoires avec des commentaires liés à son père qui avait été publié par un autre site de Paris Sportif. Et forcément que le sujet est venu très rapidement en conférence de presse, mais le sélectionneur a tenu à faire front et soutenir ses joueurs. On l'écoute.
Qui la faute? Si ça revient sur la table, moi je suis pas là-dedans, bien évidemment. Après, il y a toujours eu des discussions pour la simple et bonne raison. Les fédérations, c'est pas les employeurs des joueurs, donc ils ont évidemment, surtout aujourd'hui, et ça veut dire le niveau des joueurs, des droits d'image. Alors il y a des chartes, comme on dit, on peut avoir aussi des excès à travers les campagnes de publicité, marketing aujourd'hui. C'est souvent pour accrocher l'œil, mais pas toujours en rapport peut-être avec le sportif. Mais ça, je dis pas que c'est le moment. Si tout se passe bien, tant mieux. Mais depuis 14 ans, j'en ai eu des... et avant aussi. Hein. J'oublie pas qu'on a dû se battre durement malgré l'opposition d'Aimé Jacquet. Ils ont des droits, ils donnent des sommes très importantes et il y a des contreparties. Quoi. Après, vous trouvez le juste milieu, mais il peut avoir sans que ça devienne un problème insurmontable.
Voilà, ça c'était le premier dossier qui a été rapidement balayé par le sélectionneur Didier Deschamps. L'autre dossier, c'était notamment la déclaration après match, lors de la fin du dernier match face à la Côte d'Ivoire de Ryan Cherki. On en parlait justement, lui qui avait été interrogé au micro du diffuseur M6, qui avait certes dit l'équipe de France n'est pas favorite pour la Coupe du Monde, mais l'équipe de France est prête à écraser tout le monde. Voilà, ça a fait pas mal de débats et là aussi Didier Deschamps a tenu une nouvelle fois à imposer de nouveau un cadre et à remettre un peu plus ses déclarations dans son contexte.
Toujours, c'est valable pour moi, pour ceux qui viennent devant vous, à travers des paroles. Il y a une interprétation qui peut être faite. Moi, je parle avec les joueurs. Après, libre à vous d'écrire, de faire des débats sur ce que vous voulez. J'ai pas de problème avec ça. Mais entre ce qu'il a dit, comment ça peut être retranscrit, et lui, pourquoi il a dit ça, c'est dans le sens de motivation. Une lecture qui peut être différente. Bon, ça, aujourd'hui, depuis un bon moment, c'est souvent le cas.
Voilà, Didier Deschamps qui vraiment n'a esquivé aucun sujet et évidemment d'autres cas encore à surveiller, d'autres dossiers à surveiller en équipe de France, notamment les primes, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, cela pourrait bouger dans les prochaines heures et également l'histoire des places attribuées aux joueurs et leurs familles. On rappelle la Fédération Française de Football qui a demandé un effort aux joueurs en passant de 2 places distribuées gratuitement et 6 autres réservées aux familles à la charge des joueurs.
Arthur, alors justement, par rapport à ça, Didier Deschamps, il aime que tout soit carré, que tout soit organisé. On rappelle qu'en 2014, il y avait eu des soucis avec les familles au Brésil. Est-ce qu'il est énervé par toutes ces choses qui peuvent parasiter les Bleus ? Comment il vit ça ? Et est-ce que aussi, par rapport à l'histoire des primes, il est sidéré qu'entre guillemets, la FFF n'ait pas fait le job avant et que Philippe Diallo et ceux qui décident ne se soient pas mis d'accord avant ?
Sidéré, non, c'est un mot peut-être un peu trop fort. La réalité des faits, c'est que d'abord il y a un contexte qui est extrêmement tendu à la Fédération française de football, notamment économiquement.
Plus de sous à la Fédé quand même, Arthur.
Ce n'est pas nouveau, on est d'accord. Ce n'est pas nouveau, évidemment. Cela a été dévoilé notamment lors des derniers budgets qui ont été votés par le conseil d'administration de la Fédération française de football. Mais l'autre chose qui peut interroger, c'est tous ces dossiers qui sont encore en cours, alors qu'on le rappelle, le grand départ, c'est pour mercredi. Certains qui ont été réglés très récemment, je pense notamment du côté de l'hôtel des joueurs, les chambres réservées aux familles, tout cela, tout ce budget-là a été débloqué il y a seulement une semaine et demie, forcément que c'est un peu interrogé. Et quand on regarde aussi l'historique, pour parler vraiment de ces primes-là, sur les dernières grosses compétitions, le sujet avait été réglé en amont, parfois bien en amont, et cette fois-ci, force est de constater que ça a pris du retard, que la fédération s'y est pris un peu plus tard et que face à cela, les joueurs eux aussi peut-être jouent un peu la montre et profitent de cela pour qu'il y ait de véritables discussions et négociations.
Je pense que les joueurs sont en position de force en fait. Plus ils attendent, plus le match arrive et plus la fédération va commencer à stresser parce que si les joueurs ne trouvent pas d'accord, alors évidemment ils n'iront pas jusqu'à. Et d'ailleurs ils l'ont dit très justement un peu plus tôt qu'ils n'iraient pas jusqu'à faire grève ou quoi que ce soit. D'ailleurs c'est vraiment pas le moment de le faire, surtout par rapport à l'historique de l'équipe de France et les grèves, mais qui se réservent le droit justement derrière la compétition, en tout cas de parler dans la presse. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'en tout cas le temps joue en la faveur des joueurs. C'est très surprenant de la part de la fédération d'avoir laissé traîner un peu cette situation. Connaissant Didier Deschamps aussi qui essaie de maximiser un maximum, ça se dit pas ça,
non,
maximiser en tout cas le terrain plutôt que l'extra sportif. C'est très surprenant de la part du sélectionneur de se retrouver dans une situation comme celle-ci, d'autant qu'il a quand même été joueur et il sait de quoi il parle.
Kevin, Fabrice, j'aimerais avoir votre avis parce que aussi il y a le côté un peu démago, populo, mais c'est vrai que globalement les gens ne peuvent pas entendre que des footballeurs demandent toujours plus pour des primes. Et donc est-ce que finalement ça tombe pas très mal d'avoir ce genre de débat avant une compétition, parce que on sait très bien que si ça se passe mal pour les Bleus, il y aura toujours des petits discours très démago en disant ils étaient obsédés pour savoir combien ils allaient prendre à la fin alors qu'ils sont déjà largement payés, etc., etc. C'est des débats qu'on pourrait éviter.
Non mais le souci c'est que tout à l'heure Arthur tu disais que je sais pas si c'est toi Karine qui disait que les caisses sont vides.
Il y a des problèmes financiers à la CD,
oui, mais les caisses sont pas forcément vides. Après c'est parce qu'il y a beaucoup de, en tout cas redistribution, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais en tout cas il y a quand même des sponsors et la Fédération française de foot.
Mais il doit faire beaucoup d'économies, ça paraît fou, mais c'est la réalité.
En fait il y a beaucoup d'argent, mais c'est comment il est utilisé.
Exactement.
Voilà, il a peut-être été mal utilisé avec l'hôtel des Bleus qui a coûté apparemment une fortune. Hein, au passage.
Ça fait grincer un petit peu des dents.
Si on élimine la demi-finale, c'est sûr que ça va faire parler.
Grincer des dents, on en parle beaucoup, oui. On rappelle, c'est cet hôtel Four Seasons qui est en plein centre-ville de Boston.
Qu'on a pu visiter, qui est très beau.
Surprenant. Il peut être très beau, mais ça coûte un petit peu d'argent. On parlait des familles, là pareil. Il y avait un premier devis qui avait été fait par la Fédération française de football il y a quelques mois où c'était environ 600 € la chambre pour les familles. C'est passé presque à 1 000 € au moment de la réservation. Donc c'est un coût et c'est le cas aussi pour les joueurs.
Tu payes
paye les hôtels, l'hôtel pour les familles?
La Fédération française
de football.
Mais l'idée, c'est que les familles logent justement dans ce même hôtel. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont quasiment privatisé.
Oui, non, mais c'est la fédération qui paye ou c'est les joueurs qui payent?
Non, c'est la Fédé qui paye.
Non, c'est la Fédé.
Ok.
Ah, donc, ouais. Bah, surprenant, moi j'ai jamais vu ça pour le coup. En règle générale, enfin, je sais que nous en équipe nationale, quand on partait pendant plus de 10 jours, en règle générale, surtout en fin de saison, qu'on devait faire venir les familles, ben on avait des chambres à disposition, mais c'était nous les joueurs qui les payions, soit sur nos primes de match, soit à la fin du mois en fonction de nos salaires.
Après, on va passer dans le même temps les familles de joueurs. Je pense que ce sera à la fin. Si c'est comme d'habitude, ce sera après le troisième match et peut-être pour les demi.
Mais ils ont réservé tout un hôtel pour pas longtemps alors.
Non, mais en tout cas, ils ont réservé tout un hôtel. Il y a des gens qui sont prêtes justement pour accueillir les familles.
Le débat paraît quand même complètement dingue. On parle justement d'un problème d'argent à la fédération et tu commences à privatiser un hôtel. Enfin, je veux dire, il y a peut-être autre chose à faire avec l'argent qui manque, soi-disant.
Mais c'est pour ça que c'est difficile de s'exprimer sans avoir exactement tous les tenants et les aboutissants de qu'est-ce qui a été réservé, pour qui, quand, comment, qui paye.
Arthur, il peut plus dire. L'hôtel, il a été entièrement privatisé. C'est le Four Seasons de Boston qui est en plein centre-ville.
Il y a un seul étage, pour tout vous dire. Dans l'hôtel, il y a un seul étage qui n'est pas privatisé, c'est le dernier étage, puisque c'est des résidents à l'année. Voilà, et cet étage-là, il y a une quinzaine de chambres, c'est des personnes.
Non, mais c'est important.
Non, il n'est pas immense.
De mémoire, c'est 4 ou 5.
Donc, 4 ou 5, c'est pas comme un hôtel américain.
Et le cinquième est donc réservé aux résidents.
Il n'est pas immense.
Est-ce que les familles vont participer sur les nuitées qu'elles vont faire en fait aux États-Unis? Est-ce qu'elles vont participer? À quel pourcentage ou pas du tout? C'est une question à laquelle on n'a pas la réponse.
Ce que dit Fabrice, c'est très important parce que ça dépend quand même. On a tous fait des déplacements, alors pas en équipe de France et pas peut-être pour une Coupe du Monde à New York ou aux États-Unis, que ce soit New York, Boston, c'est fait partie des villes au monde où l'immobilier est le plus élevé. Donc forcément, c'est coûteux. Après, concernant les primes, etc., comme disait Karine, le problème, c'est que c'est pas bon, quoi, comme je vais pas parler de polémique, mais c'est même pas bon comme discussion avant une compétition. Parce que c'est toujours des effets boomerang où ça peut revenir dans la tête soit des joueurs, soit de la fédération.
Bien sûr.
Forcément, si ça se passe mal, ce qui est quand même l'idéal. Après, il faut dire aussi pour nos auditeurs, même si nos auditeurs sont quand même des aficionados du football, c'est que beaucoup de joueurs reversent leurs primes à des associations. En tout cas, je ne sais pas si c'est le cas de tous les joueurs, mais je sais que les plus gros joueurs reversent souvent les primes.
La grande majorité. 22, c'était la très grande majorité. Pour
certains, même à leurs clubs formateurs aussi, ils font un geste.
Quand c'est comme ça, c'est vrai que tu peux demander les primes et puis toi les reverser à ton club. Et ça, c'est top pour le football amateur ou pour telle ou telle association. Mais c'est vrai que tout ce genre de discussion avant une compétition, c'est compliqué. Il faut les régler en amont le plus rapidement possible. Après,
messieurs, on va continuer à en parler puisqu'on doit faire une courte pause. Évidemment, Arthur, tu restes avec nous ensemble jusqu'à minuit. L'afterfoot continue. À tout de suite.